Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, que ce soit dans votre physique ou dans votre morale, que le Seigneur vous vienne en aide. Alors, le message que je voudrais vous partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Je me souviens quand j'étais étudiant, on nous donnait un livre à lire et puis il fallait faire un résumé. Je ne sais pas si on pratique encore comme cela. Et je me souviens que j'étais tombé sur un livre dont le titre était « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Immense écrivain, un vocabulaire extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais extrêmement dur à lire. Alors, si vous souffrez d'insomnie, eh bien, je vous invite à essayer de lire Marcel Proust. Il y a des phrases qui sont interminables. Et quand on arrive à la fin de la phrase, on a oublié le début. Mais bref, on n'est pas là pour faire de l'analyse de texte. Mais c'est ce titre qui m'est revenu en mémoire, « À la recherche du temps perdu ». Alors, bon, on peut se mettre à la recherche d'un objet, comme on a perdu ses clés ou on a perdu son téléphone et on se met à la recherche de quelque chose et on peut le retrouver. Mais le temps perdu n'est-il pas perdu, complètement perdu? Comment peut-on retrouver le temps perdu? Eh bien, humainement, ce n'est pas possible, mais nous allons voir plus tard que le Seigneur, notre Dieu, lui, peut faire en sorte de rattraper le temps perdu. Alors, les hommes, depuis toujours, sont en recherche. En recherche. Et nous pouvons lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 11, nous pouvons lire Dieu donc, il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc vous voyez que les êtres humains sont depuis toujours à la recherche, se posent des questions. Et j'aime beaucoup ce verset parce que pour moi c'est vraiment un verset qui définit d'une manière vraiment très 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 exacte et très belle aussi la différence entre l'homme et l'animal. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons cette capacité d'entrer en relation avec Dieu. Mais pour cela, il faut se poser des questions, il faut faire une recherche. Or, l'animal ne se pose pas de questions. Lui, il sort de sa tanière et pour chercher de la nourriture, et quand il a mangé, ben, il va dormir. Et c'est vrai qu'au début, l'homme aussi, il cherche à satisfaire ses besoins essentiels, c'est-à-dire manger, boire, s'abriter. Et lorsque il se trouve dans une condition à l'aise, eh bien, il commence à se poser des questions sur la vie, sur la mort. Mais Ecclésiaste nous dit qu'il ne peut comprendre tout du début à la fin. En effet, malgré les recherches de l'homme, les questions qu'il se pose, il n'arrive jamais à comprendre tout du début à la fin. Ce message, j'avais partagé cette méditation lors d'une réunion de prière et je l'ai un peu étoffée et j'ai vu un autre angle, un autre aspect. Alors certains vont certainement se rappeler de certaines choses que j'ai déjà dites. Et donc l'homme est toujours en recherche. Il est en recherche, il se pose des questions et malheureusement il n'arrive pas à satisfaire sa curiosité et ses besoins. Il y a une chanson d'un groupe de rock qui s'appelle U2. U2. Et qui dit, donc, j'aime bien sur Internet, j'aime bien de voir les traductions des chansons en anglais parce que, vous savez, parfois on chante des choses et parfois c'est quelque chose qui n'est pas très correct. Donc, il faut faire attention à ce qu'on chante et bien comprendre la signification des textes. Et ici, j'ai cherché la traduction du premier couplet, et cela dit, j'ai gravi les plus hautes montagnes, j'ai couru à travers les champs, j'ai escaladé ces murs de la ville, j'ai couru, j'ai rampé, mais je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. Alors, donc vous voyez que les hommes cherchent, mais fatalement, ils ne trouvent pas toujours. Et bien souvent, c'est parce qu'ils ne cherchent pas dans la bonne direction. Alors, encore l'Ecclésiaste, donc encore dans le livre de l'Ecclésiaste, nous allons lire au chapitre 1 à partir du verset 12. L'Ecclésiaste, il nous rend témoignage à la fin de sa vie de tout ce qu'il a expérimenté, recherché, et il reconnaît que tout cela n'a débouché que sur de l'insatisfaction. Et il finit toujours par dire « ce n'était que vanité et poursuite du vent ». Alors lisons l'Ecclésiaste au chapitre 1, à partir du verset 12. On va faire une lecture un peu longue, mais c'est difficile d'arrêter la lecture, hein, quelque part, parce que sinon, ça perd de la signification. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Donc, l'Ecclésiaste, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Salomon. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa sagesse, sa science, augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, particulièrement ce passage, on est un peu dérouté. On est un peu dérouté et on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Où veut-il en venir? Parce que finalement, il est en train de nous décourager, de nous déprimer. Finalement, tout est vanité, tout est poursuite du vent, rien ne sert à rien. Et donc, à quoi bon? À quoi bon que je fasse quelque chose, puisque tout est vanité, poursuite du vent? Et c'est vrai que quand j'ai lu pour la première fois le livre de l'Ecclésiaste, j'étais un peu troublé. Mais vous le lisez, vous le méditez et vous le relisez, eh bien vous rendez compte que en fait l'Ecclésiaste donc ne veut pas nous dire que voilà, il ne faut pas faire tout ça, ça sert à rien, on ne va rien faire. Parce qu'alors, on se lève du lit, on va s'asseoir devant la télévision et on ne fait plus rien, quoi. Mais c'est pas ça qu'il veut nous dire. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons expérimenter, chercher, si nous n'avons pas le Seigneur, eh bien, tout ça, c'est vanité et poursuite du vent. En effet, les hommes recherchent depuis, donc, dans le passé, comme Salomon, ou dans aujourd'hui, dans cette chanson-là de YouTube dont je vous ai parlé, ils recherchent tout le temps les mêmes choses. La sagesse, sagesse aussi, ça peut être la connaissance, connaître. Comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne l'univers, peu importe. Ils recherchent des plaisirs. Je n'inclus pas dedans la débauche, mais le plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi, à condition que ce soit quelque chose de sain. Lorsque moi je vais me promener dans la nature, eh bien j'éprouve du plaisir, et c'est donc un plaisir que l'on peut rechercher. Alors on peut aussi bâtir des ouvrages, bâtir une maison, un foyer, mais certains aussi cherchent la richesse. On aime bien aussi de faire la fête. Et ce n'est pas, en ce moment, ce n'est pas facile puisque nous sommes confinés. Alors, il y a un mot, qui revient beaucoup pour le moment, depuis le confinement, c'est le mot essentiel. Par exemple, les déplacements essentiels. Qu'est-ce qui est essentiel? Et là, nous voyons que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Moi, personnellement, je trouve pas essentiel d'aller au cinéma. Je trouve pas essentiel d'aller au restaurant, même si je comprends la détresse des restaurateurs qui n'ont pas de revenus. Je les comprends, mais voilà, je trouve pas que c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je suis pratiquement certain que mon grand-père n'a jamais été au restaurant. Je sais même pas s'il avait déjà été au cinéma. Il a connu deux guerres mondiales. Et mon grand-père ne s'est jamais plaint. Et donc, cela nous, cette période que nous vivons, cela nous permet donc, c'est une parenthèse que je fais ici, cela nous permet de nous un peu de voir où sont nos priorités et quelles sont les choses vraiment essentielles. Alors donc, pour l'Ecclésiaste, vouloir acquérir des connaissances, étudier, n'est pas une mauvaise chose en soi. Sinon, on n'enverrait plus nos enfants à l'université. Hein? Donc, c'est pas une mauvaise chose d'apprendre, de satisfaire sa curiosité. Je l'ai dit, ce n'est pas une mauvaise chose de chercher certaines choses qui nous donnent du plaisir. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans des activités diverses. On peut faire la fête, on peut, bien sûr, on peut faire la fête, fêter un anniversaire, fêter une promotion, que sais-je. Cela procure du plaisir, bâtir une maison, un foyer, etc. Tout cela n'est pas mauvais et ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste veut nous dire. Il ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire de tout ça. Mais, pardon. Par contre, si vous faites tout cela dans le but de combler votre cœur, de le combler et d'en tirer un bonheur éternel, là, eh bien, c'est voué à l'échec. Et là, ça devient vanité, poursuite du vent. Si je place ma priorité, par exemple, dans le sport, et que, voilà, j'aime bien de courir, c'est pas le cas, mais voilà, j'aime bien de courir tous les jours, je prends du plaisir à courir, c'est mon but dans la vie, c'est ça qui me rend le bonheur, la joie, et tout dépend de ça. Ben, si le jour où j'ai un problème physique et que je ne peux plus courir, eh bien, voilà, je n'ai plus rien. Et donc, ce que veut nous dire l'Ecclésiaste, c'est de ne pas nous attacher à ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais il ne faut pas s'y attacher. D'ailleurs, au chapitre 2, au verset 24, il dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » En effet, tout ce que nous possédons, toutes les joies, les petits bonheurs, les moments de bonheur que nous pouvons vivre, eh bien, nous le devons à la grâce de Dieu. Et si Dieu nous permet de jouir de certaines choses, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, parce que c'est un cadeau de Dieu. Et donc, est-ce que nous allons refuser un cadeau de Dieu? Non, mais un cadeau, bah, voilà, on en prend soin. On en prend soin. Et donc, il est bon de jouir de certaines choses, mais toujours avec modération et toujours en sachant que cela vient de Dieu, que c'est un don de Dieu, et toujours en priorisant, en mettant au-dessus de tout le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous satisfaire avec toutes ces choses, hein? La connaissance, la sagesse, la richesse, les plaisirs, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se satisfaire de tout cela? Bien parce que il y a une seule chose qui peut nous rendre vraiment heureux. Et il y a toutes ces choses peuvent nous procurer des satisfactions, des bonheurs éphémères, des moments donc de plaisir, de bonheur, mais elles ne peuvent en aucune façon combler le vide qui est dans notre cœur. Le philosophe Blaise Pascal a dit une phrase merveilleuse à propos du vide qui se trouve dans le cœur de l'homme. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. Quelle belle phrase! C'est vrai que si nous ne pouvons trouver de satisfaction dans tout ce qui a été créé, dans tout ce qui est humain, c'est parce que nous avons un vide qui ne peut être comblé que par Dieu. Alors, les hommes, malheureusement, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent à gauche, à droite, dans toutes sortes de directions. Et ça a été mon cas pendant des décennies, parce que je suis venu au Seigneur assez tard dans l'âge. Et donc, j'ai cherché dans toutes les directions. Alors, nous qui avons trouvé le bon chemin, le chemin étroit, nous qui avons été éclairés par le Seigneur et qui nous a indiqué ce qui pouvait faire notre bonheur suprême et complet, eh bien nous, nous avons cette mission d'être un peu comme des poteaux indicateurs et de essayer de diriger les personnes, notre prochain que nous voyons se fourvoyer dans des directions qui ne mènent à rien et qui sont vanité et poursuite du vent. Eh bien, soyons donc des poteaux indicateurs, soyons donc des personnes qui peuvent essayer de diriger notre prochain vers le Seigneur, vers le Seigneur, parce que il n'y a que le Seigneur qui peut combler parfaitement tous nos besoins. Alors, au début de ce message, nous avons parlé d'un livre qui s'intitule « À la recherche du temps perdu ». Alors, peut-être il vous est arrivé de regretter d'avoir perdu tant de temps dans telle ou telle direction. En tout cas, moi, souvent, j'ai regretté d'avoir perdu du temps à chercher dans cette direction, dans telle direction ou dans l'autre. Et je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien. Et je me suis dit, bah, j'ai tellement perdu de temps. Et malheureusement, le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps perdu, ben, il est perdu. Il ne peut pas se rattraper. Peut-être vous vous dites aussi, comme je me le suis dit aussi, pourquoi n'ai-je pas cherché le Seigneur plus tôt? Pourquoi ne l'ai-je pas cherché plus tôt? J'ai perdu tant d'années sans le Seigneur. J'ai perdu tant d'années sans le Seigneur. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire rattraper le temps perdu, eh bien Dieu, lui, il peut nous apporter la consolation. Comment? Eh bien, parce que il nous offre l'éternité. Alors, qu'est-ce que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même si ça a été perdu par rapport à l'éternité? Le Seigneur, notre Dieu, il va nous permettre de rattraper le temps perdu. Alors, faisons la priorité, faisons notre priorité, recherchons d'abord, comme dit Jésus dans Matthieu 6, 33, recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Faisons de notre Seigneur notre priorité, notre joie. L'apôtre Paul dit à plusieurs reprises, réjouissez-vous dans le Seigneur, dans le Seigneur. Ça veut dire que notre joie, celle qui ne peut nous être enlevée, elle se trouve dans le Seigneur, dans cette espérance que nous avons d'être enfants de Dieu et d'un jour être réunis avec notre Sauveur. Peut-être n'avez-vous pas cette espérance, peut-être vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette espérance. Peut-être vous avez cherché dans toutes sortes de directions pour trouver les réponses à vos questions ou bien pour trouver le bonheur, la joie. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette espérance éternelle? Eh bien, tout d'abord, il faut de l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire se reconnaître que nous sommes pécheurs. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur et rien de ce que je peux faire ne peut me racheter. Je ne peux pas mettre mes bonnes actions d'un côté pour faire pencher la balance du côté de mes bonnes actions, pour effacer mes mauvaises actions. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est une première chose, reconnaître qu'on est un pécheur. Et alors, on se tourne vers Dieu. Et Dieu a donné son Fils Jésus, pour qu'il meure sur la croix de Golgotha, pour qu'il prenne ce péché, tous les péchés sur lui, afin que nous soyons justifiés, afin que nous puissions nous présenter devant Dieu. Et si vous acceptez Jésus comme sauveur, eh bien alors, à ce moment-là, l'éternité s'offre à vous et vous n'aurez plus de regrets en ce qui concerne le temps que vous avez perdu dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer par une prière. Seigneur mon Dieu, longtemps j'ai cherché dans toutes sortes de directions. Longtemps j'ai essayé de trouver des réponses. Et je pensais que la science allait m'apporter les réponses à toutes mes questions. Mais au plus j'avançais et au plus je voyais de nouvelles questions, j'ai cherché dans toutes sortes de directions, dans les plaisirs, dans le travail, dans le sport, mais je n'ai rien trouvé. Comme dit cette chanson, je n'avais pas encore trouvé ce que je cherchais. Et Seigneur, je veux te remercier parce que un jour tu t'es présenté à moi, tu m'as éclairé et tu t'es révélé à moi et tu as répondu à toutes mes questions. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi je meurs et je sais où je vais aller par la suite. Seigneur, je veux te remercier pour cette espérance que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, interviens dans le cœur de toutes ces personnes qui cherchent et qui ne savent pas où aller. Seigneur, dirige-les vers le chemin qui porte à toi, Seigneur. Te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.